Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 10-10. Aujourd'hui, nous allons parler d'inclusion et d'entreprise. C'est un vaste sujet, c'est un sujet dont on parle depuis longtemps. Les résultats sont-ils au rendez-vous? Nous allons le voir avec Olivier Génie, donc, qui est directeur d'Axe transversal de l'emploi. C'est déjà un petit peu compliqué pour une littéraire comme moi. Et on remercie un autre Olivier qui lui sera à la régie et qui va réaliser cette émission pour vous. Et pour nous aussi. Alors, entreprise inclusive, bonjour Olivier.
Bonjour.
Entreprise inclusive, ça veut dire quoi en fait?
Merci de votre invitation.
Partons de la base, hein. Ça
oui,
veut dire quoi?
Oui, oui, c'est... Alors, à la fois c'est compliqué, à la fois c'est très simple. C'est comment est-ce que dans l'entreprise, différents types de personnes peuvent cohabiter et cohabiter de façon positive. Donc ça veut dire qu'on peut rencontrer tant des personnes étrangères que des personnes en situation de handicap, que des personnes dites valides, et tout ce beau monde doit travailler ensemble en bonne intelligence et pour permettre l'évolution de l'entreprise, maintenir son poste et puis contribuer à l'économie.
Il y a quelques années, ça paraissait pas du tout évident d'inclure certaines personnes. Alors moi, je pense aux juniors, aux seniors, aux personnes handicapées, aux personnes vulnérables. On va revenir sur tous ces termes.
Bien sûr.
Ça paraissait pas du tout évident parce que la marge d'une entreprise, ça doit fonctionner, quoi. On peut pas prendre de retard, on peut pas perdre de temps, on peut pas. Enfin bon, c'est assez compliqué, ni d'argent, bien évidemment, puisque le temps c'est de l'argent. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu antinomique, mais il y a une loi en 2005 quand même qui a imposé aux entreprises de laisser une place à l'inclusion de personnes différentes.
Oui, alors vous avez raison de le souligner, hein, 2005 c'était une loi importante, hein, puisque si je fais un petit rappel, c'est la loi qui a entre autres permis d'inclure des personnes en situation de handicap pour les entreprises de plus de 20. Et si elles ne le faisaient pas, il y avait une contribution à financer, ce qui d'une certaine façon était vécu d'ailleurs par les chefs d'entreprise comme une pénalité. Dans la réalité, l'entreprise a toujours inclus les personnes, mais avec plus ou moins de bonheur. Le chef d'entreprise est bien sûr tourné sur la productivité, sur les résultats, mais il a également un rôle social, de plus en plus d'ailleurs. Hein, on parle de plus en plus de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc les entreprises se sont appropriées, même si les choses sont encore imparfaites. Lorsque je discute avec beaucoup de collègues, soit du MEDEF, de la CPME ou dans d'autres occasions, tous essayent de faire des efforts, mais c'est pas si simple que ça de réussir à faire ces efforts.
Alors je vais vous poser la question qui tue. On parle de greenwashing, c'est-à-dire des entreprises qui donnent une espèce de bonne conscience par rapport à l'environnement. Mais ça reste dans les mots la plupart du temps, c'est pas forcément très mis en pratique. Est-ce qu'il n'y a pas la même chose justement par rapport à la différence au handicap, aux jeunes, aux vieux, comme je vous le disais tout à l'heure? Est-ce qu'il n'y a pas un discours ambiant qui fait que ça fait quand même bien de dire qu'on est très en faveur de l'inclusion, et dans la réalité les choses ne sont pas tout à fait aussi évidentes?
Alors, également une deuxième bonne question. le chef d'entreprise, sa vocation, ce n'est pas d'inclure. Le chef d'entreprise, sa vocation, c'est de produire des services une certaine forme de production, et que cette production, elle corresponde à un besoin de client, d'un marché. Si à cette occasion, il arrive à inclure des personnes en situation de handicap ou en situation de vulnérabilité, il le fera volontiers. Il y a plusieurs problématiques dans ce que je viens de dire. Tout d'abord, c'est quoi les processus? Comment est-ce qu'on, vers qui on se retourne pour inclure des personnes et trouver les bonnes personnes? À ce titre, dans la loi justement de 2005, il y a la mise en place de cette contribution pour aider les personnes en situation de handicap à pouvoir retrouver un emploi pour les entreprises de plus de 20. Et on se rend compte que les entreprises du secteur privé n'y sont pas encore. 6%, alors qu'aujourd'hui, on est à 3,5%.
Je vais dire la demande, 4%. C'était 6% de personnes en situation d'inclusion dans une entreprise de plus de 20 personnes, c'est ça?
Alors, ce n'est pas 6%, c'est 6% de la masse salariale doit être consacrée à l'embauche de personnes en situation de handicap.
Ça commence à se compliquer.
Exactement, c'est pour ça. Et quand on regarde les chiffres, même les chiffres sont des chiffres redressés, puisque si on embauche une personne en situation de handicap de plus de 50%, de plus de 50 ans, je crois, la personne compte pas pour 1, mais compte pour un peu plus de 1,5,
je
crois.
C'est comme les foyers fiscaux, ça.
Et donc, on n'y est pas. Malgré tout, les chefs d'entreprise font des efforts. Si je parle par exemple d'un dispositif qui s'appelle les clauses sociales, c'est dans le cadre de la commande publique, mais également de marchés passés par des entreprises, ces donneurs d'ordre demandent à ce qu'une partie du travail pour lequel ils lancent cet appel d'offres soit contributeur pour des personnes en situation de vulnérabilité.
Alors l'entreprise, vous allez dire que je ne suis pas contre ni pour qui que ce soit, ni pour l'entreprise, ni pour l'inclusion, je suis plutôt favorable à l'inclusion, mais bon, l'entreprise fait un effort. Elle fait un effort parce que pour être choisie, effectivement, il faut qu'elle réponde à cette clause d'inclusion de personnes pour avoir le marché, effectivement.
Ou, en tous les cas, faut qu'elle inclue.
Il faut qu'elle concourir.
Exactement. Il faut qu'elle inclue cette clause, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, il y a des sortes de. Alors, c'est pas des sortes d'ailleurs, c'est des facilitateurs, c'est réellement comme ça qu'ils s'appellent. Ce sont des personnes qui sont dans un certain nombre de collectivités territoriales qui suivent justement le nombre d'heures qui a été prévu dans le marché et est-ce que ces heures sont bien réalisées, comment elles sont réalisées, avec quelle typologie. Et tout ça remonte et l'entreprise qui a gagné ce marché a elle aussi des pénalités ou pas. Donc dans la réalité, il y a plein de choses qui existent, qui sont la plupart du temps pas si simples que ça à suivre et à mettre en place. Et on a également une problématique au départ, à l'orientation. C'est-à-dire, est-ce qu'on a bien compris le travail de France Travail? Est-ce qu'on a bien compris pour les personnes en situation de handicap Cap Emploi, pour les jeunes, les missions locales? Bref, quand on est chef d'entreprise, même si dans le cadre de la loi plein emploi, il doit y avoir une harmonisation qui est en train de se mettre en place et sur laquelle on est beaucoup en train de travailler actuellement, il n'en reste pas moins que le chef d'entreprise peut être visité par multiples structures, des entreprises de travail temporaire pour l'emploi, France Travail également, Cap Emploi également.
Il y a peut-être un travail de simplification à faire, de communication, d'information des chefs d'entreprise, parce qu'ils ont leurs intérêts là-dedans.
Bien sûr.
Ça n'a pas été exclu, bien évidemment. Et je me dis 2005, 2025, 2026, ça fait 21 ans. Ça bouge ou ça bouge pas?
Ça bouge, mais pas assez vite. Ça bouge parce que, tout d'abord, la loi produit des effets. Mais la loi n'est pas tournée que sur la partie emploi. Elle est tournée aussi sur l'accessibilité et tout un tas de choses. Et on se rend compte que, par exemple, sur l'accessibilité, pour l'instant, on n'y est pas. Même si beaucoup d'efforts ont été faits, mais ça demande des moyens.
On n'y est nulle part.
C'est vrai qu'on n'y est nulle part. Mais on est plutôt dans le bon sens, peut-être pas à la bonne vitesse.
C'est ça.
Pour en revenir à la partie emploi et insertion,
oui.
C'est l'objectif de la loi plein emploi qui a été publiée en 2023 et pour lequel l'ensemble des réseaux, sous le pilotage à la fois du conseil départemental et de l'État, on doit mettre nos efforts ensemble et résoudre les problématiques.
J'espère qu'on n'attendra pas 20 ans et 2043 pour que ça fonctionne. On va parler de votre structure, donc Axe Transversal de l'Emploi, et ça, justement,
oui.
On va rentrer dans le vif du sujet et voir comment vous vous intégrez là-dedans pour effectivement faire progresser les choses. Pour l'instant, on fait une pause musicale. Donc, vous avez choisi deux groupes, U2 et Simple Mind.
Exactement.
Et alors, vous avez choisi les groupes, Olivier Génie, et Olivier de la régie a choisi les titres. On écoute ce qu'il nous propose et on désannoncera après. Merci. Is it getting better? Or do you feel the same?
make it easier on you now. You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Disappoint you or leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without.
Et c'est la suite de ce 10-10. Je suis très bien entourée avec deux Olivier qui produisent l'un et l'autre. Olivier qui est en régie, donc qui produit le son de cette émission. Et Olivier Génie qui lui produit, entre guillemets, dans l'inclusion et le travail inclusif dans l'entreprise. Alors bon, on a fait un petit portrait, petit tableau général de ce que pouvait être l'inclusion, depuis en particulier la loi de 2005. Tout avance, mais tout avance lentement. Vous êtes directeur de Axe transversal de l'emploi. Donc, qui est concerné par ça et en quoi ça consiste d'une certaine façon que cette structure qui est une association sur laquelle on reviendra dans la troisième partie de cette émission.
Tout à fait. L'axe transversal de l'emploi, en fait, c'est la partie emploi en milieu ordinaire de l'APSH 34. L'APSH 34 qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, qui est une grosse association du département. Et donc,
on va préciser ce que c'est, hein, APSH.
C'est Association pour les personnes en situation de handicap, 34 pour le département.
D'accord, ok.
Et donc, l'objectif de l'APSH 34, en fait, c'est de regrouper l'ensemble des dispositifs qui accompagnent les personnes en situation de handicap et en situation de vulnérabilité.
On va faire le distinguo peut-être tout de suite.
Bien sûr. Personnes en situation de handicap, c'est les personnes qui ont une RQTH ou un titre équivalent.
Ont été reconnues.
Exactement. Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.
Par la MDPH, qui est la maison des personnes handicapées.
Exactement.
C'est ça. J'essaie de m'accrocher.
Alors, c'est exactement ça. En fait, il y a une structure qui s'appelle la maison de l'autonomie. Dans le cadre de la maison de l'autonomie, il y a deux parties. Il y a d'un côté pour l'autonomie et pour les personnes vieillissantes, et d'autre côté, les personnes en situation de handicap. Et donc, c'est cette MDPH qui donne cette reconnaissance. Il y a un dossier à déposer, bien entendu, ça passe devant une commission, et à l'issue, si la situation de santé le nécessite, cette reconnaissance, elle est validée pour un temps déterminé ou pour un temps long. Et donc, nous accompagnons, la PSH au départ accompagne des personnes en situation de handicap, c'est-à-dire avec la RQTH principalement. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit avec le directeur général Yves Bébien qu'il était vraisemblable que les personnes
non reconnues handicapées, officiellement,
mais avec des problématiques de santé limitantes,
puissent. Ou de vulnérabilité.
Exactement. Alors au départ, on était parti problématique de santé limitante, mais qui n'amenait pas à la RQTH. Et puis au final, on a encore ouvert le champ, se disant que il fallait qu'on fasse profiter de notre expérience à tout un tas de personnes qui vraisemblablement le méritaient et où il y avait des...
Où le champ de l'entreprise était un champ hostile en définitive par rapport à leur capacité d'intégration, d'insertion.
Alors pas hostile,
c'est, enfin, hostile, c'est, fermé. C'est,
il ne le connaissait pas.
Oui,
alors,
oui, oui.
Il ne le connaissait pas dans les deux sens. Oui, c'est-à-dire, l'entreprise ne connaissait pas les gens et les gens n'étaient pas forcément toujours très avertis sur l'entreprise. Et donc, on a commencé à travailler dans le cadre d'un appel d'offres sur un appel d'offres de l'État pour accompagner des personnes en situation de vulnérabilité. Dans un premier temps de santé limitante, puis de vulnérabilité. On s'est ouvert aux problématiques des bénéficiaires du RSA, qui là également ont des problématiques de santé la plupart du temps assez importantes. Et puis de fil en aiguille, on a ouvert le champ puisque ce sont les mêmes ressorts. Mmh. En fait, il faut être attentif à la personne, attentif à ses limitations, qu'elles soient liées à des problématiques physiques, psychiques ou autres, et puis in fine, sociales. Et donc on répond à ces éléments-là. Et bien entendu, mais je ne l'ai pas dit, le dispositif principal de l'axe transversal de l'emploi, c'est le Cap Emploi. Alors Cap Emploi, en quelques mots, deux services à l'intérieur du Cap Emploi. Un service qui s'adresse à des demandeurs d'emploi en situation de handicap ou qui risquent de le devenir et les aider à un retour à l'emploi. Et en ce sens, on travaille...
C'est insertion-inclusion, là.
Alors insertion-inclusion, très intégré avec les collègues de France Travail. De plus en plus avec les collègues des missions locales, mais là c'est en train de monter en charge sur cet aspect-là. Et donc l'objectif c'est retour à l'emploi. Je suis demandeur d'emploi, il faut m'aider à retrouver un emploi. Et donc on travaille sur les problématiques tant de compensation que de rétablissement et comment est-ce qu'on étaye la personne et l'entreprise. C'est ça qui est intéressant. On n'est pas que sur la personne, on est sur la personne et l'entreprise. Et donc là, on fait vraiment l'articulation entre les deux et donc des mises en relation.
C'est un peu un site de rencontre.
Oui, on peut dire ça comme ça, pas avec, exactement avec la même finalité, mais c'est exactement ça. C'est un site de rencontre et on travaille justement à développer cet aspect-là. D'ailleurs, il y a un dispositif original qui existe depuis quelques années, les Duodés. Les Duodés, c'est une personne en situation de handicap se positionne pour une journée dans une entreprise qui dit « moi, je suis OK pour recevoir quelqu'un qui n'a peut-être pas le même profil, c'est peut-être des rencontres improbables, mais c'est des rencontres improbables. »
Souvent, ce sont celles qui fonctionnent.
Exactement. Ouais. Et on a eu de nombreux retours positifs d'une part et surtout des embauches, puisque l'objectif in fine...
C'est quand même que les gens trouvent du travail.
Exactement. C'est que les gens trouvent du travail et que les entreprises trouvent des salariés. Il faut qu'on soit réellement dans les deux sens pour que ça fonctionne. C'est vrai qu'on l'a...
Je ne sais pas pourquoi j'oublie toujours l'entreprise, c'est un détail.
Exactement, c'est le détail, mais c'est le détail qui fait que ça ne marche pas. Et donc, il faut vraiment penser à ces deux aspects-là, d'autant que dans un système économique, à certains moments, l'entreprise a beaucoup de besoins et donc pour le coup, elle ouvre ses portes parce qu'elle ne trouve pas toutes les personnes qu'elle souhaite. Et là, c'est vraiment une chance à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais également pour l'ensemble des personnes en situation de vulnérabilité, y compris les jeunes et les seniors, parce que l'entreprise a des besoins, ouvre ses portes. Et là, malheureusement, on est plutôt dans le système inverse. L'entreprise a moins de besoins parce que les carnets de commandes sont moins pleins. Et donc, il faut qu'on accompagne les personnes, mais qu'on continue toujours à être en relation avec les entreprises pour leur dire, il y a ces aides-là, il y a ces personnes-là, il y a ces compétences. Et il faut qu'on continue à faire cet effort de faire la jonction entre les deux.
Vous avez là une lourde tâche, parce qu'effectivement, on sait très bien que les budgets en ce moment sont en baisse dans de nombreux domaines. On sait très bien que le budget de la France n'est toujours pas fixé, qu'on ne sait pas quels sauts et ces associations vont être mangées. Vous êtes une association, on va en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure, dans la troisième partie.
Bien sûr.
Et c'est vrai que y a une frilosité normale des entreprises et il y a des gens qui ont vraiment besoin de trouver leur place dans ces entreprises. Donc je pense que vous avez un gros travail effectivement pour convaincre les entreprises et surtout pour leur dire, vous n'êtes pas tout seul, on va vous guider, on va vous aider, vous allez pouvoir le faire quand même.
Oui. Oui, oui, c'est un des challenges de cette loi plein emploi, où il faut qu'on soit encore plus présent dans le monde économique pour expliquer toutes les aides, parce que les entreprises, elles ont des budgets à équilibrer. Donc les aides, les compétences dont elles ont besoin, comment est-ce qu'on aide à rédiger des offres d'emploi, non pas qu'elles ne sachent pas rédiger les offres d'emploi, mais elles rédigent les offres d'emploi, parfois de façon un peu trop sélective, et alors que... In fine, tout le monde a des compétences et que certaines entreprises aujourd'hui sont malgré tout en difficulté, même si les carnets de commandes ne sont pas pleins.
On va faire, on fait un pas vers, j'allais dire, l'entreprise vertueuse. vous m'avez parlé aussi, quand on a préparé l'émission, d'un ESAT, c'est-à-dire que...
Oui.
Alors, il nous reste une minute pour parler de cet ESAT. Donc, ça, c'est un autre volet de l'axe transversal de l'emploi.
Oui. Alors, ce n'est pas directement dans l'axe transversal de l'emploi. Néanmoins, je supervise avec mes deux collègues directeurs l'ESAT de la PSH. C'est 190 travailleurs en situation de handicap, donc c'est un dispositif qui est gros. Et donc là, pour le coup, les ESAT, ce sont des structures qui accompagnent non pas des salariés, mais des travailleurs. Et dans l'objectif de la loi de plein emploi, est de se dire, ces travailleurs ont des compétences, ces compétences, elles sont recherchées par les entreprises. Comment est-ce qu'on accompagne ces travailleurs vers le milieu ordinaire?
Et comment on accompagne ces ESAT vers les entreprises, et les entreprises vers les ESAT, les besoins de certaines des entreprises correspondant à des productions des ESAT?
Exactement. Donc, si je voulais être très descriptif, on passe de l'ESAT travailleur handicapé qui n'est pas un salarié à l'entreprise adaptée qui fait partie d'une entreprise du milieu ordinaire mais qui a des aides malgré tout pour accompagner ces personnes, et ensuite l'entreprise dite classique, tout en sachant que l'entreprise classique n'existe pas et que tout ça...
En tout cas, la notion fluctue avec le temps.
Exactement.
Merci beaucoup, Olivier. On se retrouve dans deux minutes après cette pause musicale. Alors, vous avez choisi Simple Mind. Vous, Olivier, ici, donc Olivier Génie. Et vous, Olivier, à la technique. Toi, Olivier, tu as choisi le titre de Simple Mind. On redésannoncera tout à l'heure, comme on l'a fait pour la première chanson de U2.
I put us back together, oh, baby. Don't.
Dernière partie de ce 10-10, toujours avec Olivier Génie, donc qui, je vous le disais tout à l'heure, est directeur. C'est dur à dire, il faudra trouver autre chose, axe transversal de l'emploi. Olivier, vous nous parlez donc de l'insertion dans l'entreprise. Donc, votre organisme, je n'ai pas très bien compris, est-ce que c'est un organisme privé, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est un organisme privé qui travaille avec des fonds publics, je ne sais pas.
Alors, c'est une association. Le directeur général aime bien répéter, et bien entendu, je suis d'accord avec lui, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc, nous travaillons quasi exclusivement sur des fonds publics, alors que ce soit le Conseil départemental, l'État, France Travail, la GFIP, même si la GFIP, ce ne sont pas des fonds publics. Il transite malgré tout par l'État. Et donc, dans la période, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, les choses se tendent.
Je trouve que c'est une très jolie façon de dire les choses. Il y a une sorte de fragilité.
Oui, il y a une fragilité parce qu'on connaît les finances de l'État. Pour le coup, par ruissellement, l'ensemble des autres financeurs, collectivités territoriales comprises, sont en situation compliquée.
C'est le ruissellement pas positif. Ce n'est pas celui dont parlait notre président, le ruissellement, mais le ruissellement, c'est tout dans mon sens.
En tous les cas, il n'est pas suffisamment puissant. Il y a dans l'association, en fait, on a deux grandes parties. On a la partie médico-sociale, purement médico-sociale, avec quasiment tous les dispositifs médico-sociaux qui existent. Et puis la partie que je dirige, qui est plutôt la direction qui s'occupe de tous les dispositifs d'accompagnement vers et dans l'emploi du milieu ordinaire. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais je souhaite absolument les mettre en avant, les collègues de l'axe maintien en emploi, qui est le deuxième service du Cap Emploi, puisque là, nous sommes au sein des entreprises. Mmh. Et donc, c'est l'entreprise qui a une personne en situation de handicap ou dont le handicap se révèle, et comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner pour qu'elle reste dans l'entreprise. Donc ça veut dire que les entreprises prennent conscience qu'il y a une problématique soit de vieillissement, soit de problématique de santé en son sein ou à l'extérieur, mais qui a des répercussions sur l'entreprise. Et donc, pour peut-être chaîner avec le thème de notre échange, les entreprises ont pris cette conscience-là. Par contre, c'est tout à fait vrai que toutes les entreprises qui pourraient bénéficier ne nous appellent pas. Et c'est dommage, puisque...
Mais est-ce qu'elles vous connaissent ?
Pas assez.
Voilà, parce que je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de communication ? Effectivement, d'abord, les chefs d'entreprise n'ont pas toujours le temps de travailler là-dessus. Ils n'ont pas toujours des services qui sont à la recherche de, j'allais dire, entre guillemets, de bons plans réciproques, hein, souvent.
Oui, oui.
Des lois qui sortent, des possibilités, des offres, même quand elles sont temporaires, etc.
Oui. On n'est pas assez connu. Alors, quand on est dans l'environnement un peu classique, on se dit Cap Emploi, c'est personnes en situation de handicap. Dans la réalité, c'est bien sûr, on est spécialisé sur les personnes en situation de handicap, mais pour donner quelques chiffres, dans le département, Cap Emploi suit 1500 personnes en situation de handicap sur l'axe 1, donc retour à l'emploi, et globalement 300 dans le cadre maintien en emploi, allez, on va dire 500 avec tout ce qui gravite autour. France Travail, c'est 12 000.
Donc c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Quand vous avez 300 dossiers à traiter, c'est pas la même chose que quand vous avez 3 ou 4 sur lesquels vous pouvez vous concentrer.
Exactement.
Vraiment.
Et puis, il y a cette problématique de volumétrie. Hein, Cap Emploi, c'est 50 personnes. 50 personnes sur un département comme l'Hérault, qui est un grand département avec un certain nombre de problématiques de transport, c'est pas facile à gérer. Alors je me plains pas, mais je pense que on mériterait, mais c'est normal que je prêche pour ma paroisse, on mériterait à avoir des ressources humaines principalement complémentaires, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas accompagner parce qu'on n'a pas les moyens de les accompagner.
Alors cette histoire de moyens, c'est important, moyens humains, moyens financiers,
oui.
C'est important, c'est aussi une question de politique.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. L'argent, on le cible. On l'oriente vers telle ou telle destination. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est la marginalité et effectivement l'inclusion, c'est l'éducation. Enfin, il y a plein de... Après, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, parce que c'est quand même, j'allais dire, les impôts des Français. C'est un petit relent, j'allais dire, poujadiste, mais pas du tout. C'est des sous qu'on donne qui Bien doivent sûr. Être utilisés, effectivement, des choses utiles à la société et à toute la société. Donc, il faudrait peut-être se re-questionner finalement sur quel système on veut, quoi. Quelle société on veut vivre. Comment on veut vivre avec les autres.
Alors, c'est un débat philosophique et les 5 minutes qui nous restent ne vont pas permettre de pouvoir...
D'autant plus qu'il nous en reste 3. Donc.
Ah, donc j'ai essayé de faire court. Oui, bien sûr, ce sont des priorités et le ruissellement, il n'est pas suffisamment important, on l'a vu tout à l'heure. Et la situation financière de la France ne nous aide pas. Donc,
Les politiques sociales vous aident ?
Non, les politiques sociales ne nous aident pas. Nous aident pas, oui, elles nous aident, mais s'il n'y a pas d'argent... d'un seul coup, plein de portes se ferment.
Encore une fois, c'est la question de savoir où on met l'argent.
C'est à la fois où on met l'argent. Tout d'abord, est-ce qu'on en a assez ? Puis, est-ce qu'on fait les bons arbitrages ? Donc là, c'est tout à fait personnel. Comment on répartit les choses ? Si on se dit les personnes en situation de handicap, c'est une priorité, j'ai cru comprendre que ça devait en être une, il faut mettre plus d'argent sur ce public. Même si on se dit... Dans la réalité, ils doivent être très inclus, mais ils sont là quand même avec des particularités qui font qu'il y a des accompagnements spécifiques qui doivent être mis en place.
Alors on reviendra sur cette question parce que c'est une vaste question. Là, je vous ai mis un peu la pression en disant il reste 3 minutes, donc maintenant il en reste une. pratiquement, quel chemin d'accès pour aller jusqu'à vous ? Qui vous contacte ? Par quel canal les gens peuvent arriver vers vous ?
Alors, pour la partie Cap Emploi, ça se passe par une inscription à France Travail. Mmh. Inscription à France Travail.
Oui, ça, Cap Emploi, c'est quand le handicap est reconnu.
Exactement.
Et qu'il est donc quantifié et qu'on sait à quel...
Exactement. Sur les autres dispositifs que je pilote, on prend contact avec la PSH 34. Et donc là, pour le coup, tout le monde arrive sur un numéro. Je n'ai pas le numéro en tête, mais vous avez ma carte.
Voilà, j'ai votre carte. Donc, je vous rappelle qu'il y a un site, évidemment, comme pour tout.
Bien sûr.
Donc, le site, c'est www.apsh34.org. C'est
Exactement.
Simple comme tout. Et donc, vous allez sur ce site et là, vous aurez tous les renseignements.
Exactement.
Si vous étiez en situation vous-même de nécessité d'inclusion, pour quelque raison que ce soit, ou si vous connaissiez quelqu'un que vous accompagnez.
Exactement. Il faut penser à la famille, il faut penser à son entourage.
Et puis je voudrais vous laisser terminer sur une phrase que vous m'avez dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup plu, qui sera la conclusion de cette émission. Et du coup, on va terminer ce 10-10 dans lequel je recevais Olivier Génie, donc qui nous a parlé d'inclusion et d'entreprise. C'est un sujet passionnant, ça méritera un autre 10-10. On va remercier Olivier qui était en régie. On va vous dire au revoir à vous les auditeurs. À une prochaine fois, j'espère. Merci de votre fidélité. En tout cas, et on va se terminer sur cette phrase que cite Olivier.
Même humanité, même citoyenneté, c'est la baseline de la PSH 34.
Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à vous
Merci
de nous avoir
à
écouté.
Vous.
À une prochaine fois. Au revoir, comme je vous le disais à l'instant.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.